Deken sur la côte vendéenne. Neptune FM. Il est 21h. Neptune FM. Écoutez et découvrez. Jusqu'à 22h, Asian Bubble. Entrez dans la bulle de Loli et découvrez toute la culture asiatique sur Neptune FM.
Ciao, bonsoir, bienvenue sur Neptune FM pour cette nouvelle émission d'Asian Bubble. Cette semaine, je vais vous parler du groupe Panic Channel. On aura ensuite trois chroniques des éditions Glénat, avec donc des chroniques de manga, bien sûr. On aura la chronique du volume 8 de L'ère des cristaux, la chronique du volume 4 de Kedamame, l'homme venu du chaos, et la chronique du volume 5 du couvent des damnés. Préparez-vous parce que ça va être moult long. On aura ensuite un petit point sur les sorties manga de la semaine. On parlera culture avec les hikikomori, ces japonais qui ne sortent plus de leur chambre depuis des mois ou des années. Un phénomène qui arrive également en France. On aura ensuite une actualité très 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 importante, puisque je vais vous parler de la pénurie de kimchi en Corée du Sud. Ouais, c'est grave. Et on finira donc avec une news musicale. Je parlerai donc de Momoland, qui sera de retour en novembre prochain avec Psy à la production. Voilà, on va pouvoir s'écouter tout de suite la première chanson de l'émission. C'est Transparent Shine de Megalomania. Et on reviendra juste après pour parler du groupe Panic Channel. Magnifique. On se serait cru dans un parc. Alors, c'était Transparent Shine de Megalomania. On passe maintenant à la présentation du groupe Panic Channel, de leur vrai nom. Alors, Panic, étoile, CH. Voilà. C'est un groupe japonais de rock, Osharekai Visual Kei, qui a fait ses débuts en 2002 et qui est maintenant séparé. Il se compose de 5 membres. On a Meguru au chant, Mayo à la guitare, Kyoya à la batterie, Kiri à la basse et Kana à la guitare. On compte aussi 4 ex-membres, Takumi à la batterie, Tsubasa à la guitare, Tara fait partie du groupe The Riots à la basse et on avait aussi Yusuke à la batterie. Panic Channel voit le jour en novembre 2002 grâce à Kana, Tara et Meguru, tous les 3 ex-membres du groupe Virtion. Ce n'est que l'année suivante, à l'occasion de leur premier concert, qu'ils sont rejoints par le reste de l'équipe, c'est-à-dire Tsubasa et Yusuke. Alors que leurs débuts ont été plutôt laborieux, leur carrière décolle rapidement puisqu'ils jouent leur premier one-man à guichet fermé le 22 septembre 2003 au Urua Narcisse. C'est aussi le jour de la sortie de leur premier maxi-single. À la fin du mois de janvier 2004, leur batteur les quitte officiellement après un one-man au Meguro Rock Meikan, mais il est très rapidement remplacé par Takumi. Le groupe développe alors une véritable passion pour la sortie de clips en tout genre. Tout ça parce que au début, ils ont manqué de moyens évidents. Ça a hanté leur création et du coup, ils se sont un peu vengés en faisant tout un tas de clips. Après une tournée nationale, leur bassiste souffre de problèmes auditifs et il devra donc être hospitalisé à plusieurs reprises, obligeant l'un des guitaristes à jouer les remplaçants de fortune. Saburo de Gift est ensuite recruté en tant que membre de session à la basse, alors que Tara a quelques périodes de rémission qui lui permettent de participer à l'enregistrement de Trick, le premier album du groupe, ainsi qu'au One Man au Shibuya au West. Finalement, Tara quitte définitivement Panic Channel après le concert du 10 juillet au Shinjuku Holiday, parce qu'il ne se retrouve pas dans la nouvelle orientation musicale qu'a pris le groupe durant sa maladie. En plus d'un bassiste, le groupe perd aussi le designer de ses pochettes. Ça, c'est un peu moins important. Fin octobre 2005, le second guitariste et le batteur quittent aussi le navire, acculant Panic Channel à l'arrêt de ses activités. On croyait alors le groupe fini, mais pour le nouvel an 2006, il revient avec 3 nouveaux membres et un look plus sobre. Parce que bon, Visual Kei, ça fait les cheveux tout en pétard, de toutes les couleurs, avec les tenues qui vont bien et tout. Alors, jusqu'à avril, il se contente d'apparitions surprises dans des events, mais à l'occasion des One Man du premier et du second du mois, les nouveaux membres sont enfin officialisés. Et le 19 avril sort enfin Ishin, nouveau single de Panic Channel. Début 2007 est marqué par la sortie du mini-album Invisible Line, le 1er février, et depuis le groupe semble être revenu à un niveau d'activité normal, enchaînant sorties et tournées avec notamment un concert Shuman avec Ghost et Dolis Mary le 15 mars et un concert One Man gratuit le 27 avril. Le groupe s'est finalement mis en pause à durée indéterminée, on sait bien ce que ça veut dire, hein, en mars 2011. Alors, côté discographie, on a un total de 7 albums. Le premier, Shinjin Ikuchi, Yumeni Mokate-en, qui est sorti le 25 décembre 2003, et Shave, le dernier, qui est sorti le 17 mars 2010. On a aussi 7 singles. Le premier, Debut, Sen Mina no Chikai-en, qui est sorti le 22 septembre 2003, et le dernier, c'est Nakigao Fetish Best Way, qui est sorti le 2 février 2011. Ils ont également participé à 6 compilations. La première, c'est Seconds Records Family Party 2008 Europe Limited Edition, qui est sorti le 11 octobre 2008. Et la dernière, c'est Final Summit, qui est sorti le 16 février 2011. Voilà, on va pouvoir s'écouter tout de suite 2 chansons de Panic Channel. On commence avec Clear et on viendra juste après pour la chronique du volume 8 de L'ère des cristaux.
Asian Bubble. Découvrez toute la culture asiatique sur Neptune FM.
Donc c'était Panic Channel avec la chanson Cloud. On passe maintenant à la chronique du volume 8 de L'ère des cristaux. Donc je rappelle que c'est un seinen de genre action fantasy qui a été écrit par Ichikawa Haruko et prépublié dans le Afternoon. La version japonaise est parue aux éditions Kodansha avec un total de 11 volumes, la série étant toujours en cours. Et la version française est parue aux éditions Glénat avec pour le moment 10 tomes. Et ce volume 8 est sorti le 19 septembre 2018 au prix de 7,60€. Le résumé de ce tome... Où sont mes amis? Tu vas me les rendre. Dans un avenir lointain se poursuit la bataille entre les cristaux au corps immortel et les séléniens. Alors, il y a toujours un nom imprononçable. Phosphophilite, voilà, personnage principal, a réussi à se faire enlever par l'ennemi avec l'aide de Morion et atterrit sur le monde lunaire. Il y trouve... Alors, ce tome est sans aucun doute le plus important et le plus marquant de cette saga. Comme toujours, on retrouve l'ambiance particulière du mangaka, tant dans la construction de l'histoire que dans les traits de ses personnages, mais on apprend à aimer son style qui le rend unique. Un peu comme One Piece, quoi. Si de nombreuses questions se posent dans les précédents tomes, sans les réponses qui vont avec, maintenant on en sait beaucoup plus, même si une part de mystère reste toujours à la fin. Les révélations s'enchaînent au fur et à mesure du voyage de Phosphophilite sur la Lune, voyage par ailleurs déroutant mais extraordinaire. Découvrir les Séléniens sous cet angle ravi, ils sont tous aussi complexes et attachants que les cristaux, et surtout on comprend enfin d'où vient cette lune éternelle, cette lutte pardon, éternelle entre les deux peuples. Si on avait bien des doutes sur Vajra, voilà, ils ont tous des noms pourris, hein, je suis désolée. Si on avait bien des doutes donc sur Vajra, sur sa véritable identité, on était loin de s'imaginer tout cela le concernant. Son rôle est encore plus important et on est curieux de savoir ce que Phos va faire face à cet imposant personnage. En parlant de Phos, on est content de le voir prendre de pareilles initiatives car elles sont de plus en plus risquées et osées et celle à la fin du tome paraît décisive pour la suite. On se demande si cela ne va pas compromettre sévèrement les liens entre les cristaux. On est quand même un peu déçu par Cinabre, car on pensait qu'il allait rejoindre certains protagonistes pour le plan de Phos, alors on espère qu'il y aura, au bout de l'histoire, un moyen de l'aider malgré tout. L'énorme coup de cœur va au prince sélénien, Akmea, faisant basculer le destin du protagoniste avec force et tranquillité. Tous les passages où il est présent sont d'ailleurs mémorables, tant dans les dialogues que dans les mises en scène. Et tout comme Vajra, il souhaite le meilleur pour son peuple. Cela dit, on se garde quand même une petite réserve à son sujet, car on est convaincu qu'il cache bien des secrets. En conclusion, on a hâte de lire le tome 9, de voir la mise en place du plan de Phos sur la Lune et les conséquences qui vont en découler, autant du côté des Séléniens que des cristaux. Ce manga a un charme fou, quoique assez particulier, mais chaque tome est une agréable surprise, la preuve avec celui-ci. Donc, l'ère des cristaux à retrouver aux éditions Glénat. On va s'écouter le premier opening de l'anime Oseki no Koni, donc c'est Kyomen no Nami de Yurika, et on reviendra juste après pour la chronique du volume 4 de Kedamame, l'homme venu du chaos. Ne me dis no te toshikomera rete ita natsu ga mitsugi wa ni tadayo ota sono iro no Nami, le premier opening de l'anime Oseki no Kuni, interprété par Yurika. On passe maintenant à la chronique du volume 4 de Kedamame, l'homme venu du chaos. C'est très loin, je vous préviens tout de suite. Alors, je rappelle que c'est un seinen de genre action-aventure surnaturel qui a été écrit par Tamai Yukio et prépublié dans le Big Comic Spirit. La version japonaise est parue aux éditions Shogakukan avec un total de 4 volumes qui terminent la série, c'est donc assez court. Et la version française est parue aux éditions Glénat avec également 4 tomes. Ce volume 4 est paru le 21 novembre 2018 au prix de 7,60€. Le résumé de ce tome, Japon début des années 30. Kedamame veille sur Mayumi, mais devant lui se dresse Sawada, un autre génome hacker, aux objectifs contraires aux siens. Magnifique, le fond de Dark derrière. Alors, que s'est-il passé pour que les deux hommes deviennent ennemis? Et que veut vraiment Sawada, lui qui semble en savoir plus long que Kedamame sur leurs employeurs? Ne manquez pas la conclusion explosive de cette histoire unique au monde. Voilà, et le truc de Dark qui va bien avec, puisqu'on parle de voyage dans le temps. Voilà, si vous n'avez pas vu la série, je ne sais pas si je vous conseille d'aller voir. Bref, on revient à Kedamame. Alors, Kedamame, l'homme venu du chaos, suite et fin. Avec ce quatrième tome, au moins aussi surprenant que ses 3 prédécesseurs, Tamai Yukio a maintes fois eu l'occasion de démontrer qu'il savait jouer avec les attentes du lecteur, visant aussi bien à les satisfaire qu'à les déjouer et utilisant parfaitement les mécaniques du twist et du cliffhanger tout au long de son récit, par ailleurs très dense. Ce qui nous amène donc à cette question, 4 tomes, était-ce l'idéal pour une telle histoire? Le gros twist du tome 3 nous poussait à nous poser cette question, on se demandait s'il n'y avait pas eu comme une tentative de prolonger un récit initial plus ou moins one-shot en une série, tentative qui n'aurait finalement pas pris. Et ce questionnement demeure, arrivé au bout de ce quatrième et dernier tome. Quoi qu'il en soit, ce tome 4 n'est pas avare en retournement et surprise, tout comme ses prédécesseurs. Ce tome 4 rompt une fois de plus la structure temporelle de la série. Après tout, comme je le disais tout à l'heure, on est sur une histoire de voyage dans le temps. Pourtant, l'impact de cette méthode sur la narration est d'un tout autre registre. L'essentiel des 3 premiers tomes se passait à l'époque de Kamakura, malgré un intermède dans le futur. Puis nous avions eu droit à une rupture brutale à la fin du tome 3 qui nous propulsait d'un seul coup en 1931. Ce quatrième volume, quant à lui, multiplie les époques au fil de séquences assez brèves. Nous concluons donc l'arc des années 30, après quoi nous passons en 1945, puis en 2011, puis en 2089. Le cycle troisième de la série associant les épisodes de 2011 et 2089. La multiplication des époques en bout de course produit l'impression d'une spirale folle, comme annonciatrice du chaos dont est issu Kedama. Ce sentiment de précipitation peut donner l'impression que Kedamame aurait dû durer donc plus longtemps, mais ce n'est peut-être pas le cas. Au fond, cette spirale n'est pas chaotique, et même en jouant le jeu du voyage temporel, elle ne produit pas de situation plus ou moins paradoxale comme on a parfois l'habitude de le voir. De plus, elle joue bien avec l'idée de cycle, pertinente au regard des découpages de la série en 3 arcs majeurs, et là où le thème aurait pu laisser supposer que l'accent serait mis sur une narration non linéaire, l'effet final a pourtant quelque chose de linéaire ou éventuellement de circulaire. L'idée serait donc plutôt celle d'une histoire qui se répète. À chacune des époques, Kedama est chargé de protéger une jeune Mayu, destinée à mourir bien vite, et il doit affronter d'autres génomes hackers. Sawada le poursuivant d'époque en époque, pour une raison ici explicitée et qui peut quand même partager un petit peu. On a du mal à accrocher au caractère intime de l'opposition entre les deux personnages, et sa résolution finale peine à convaincre. En même temps, elle s'associe à un thème un tantinet complotiste qui paraît bien plus intéressant. Donc narrativement, il est certes un peu forcé, mais si philosophiquement, qu'il est juste dans ce qu'il révèle du chaos du futur. Mais que signifient donc ces cycles? Pourquoi Kedama continue-t-il au fil des générations à accompagner et protéger Mayu? Kedamame s'en prend alors à une autre notion pénible et qui imprégnait déjà de manière ambiguë la série dès le premier tome, celle du destin. Là où, depuis Kamakura, Mayu et le monde autour d'elle, en 1945, nous sommes en plein bombardement de Tokyo et la date du 11 mars 2011 renvoie forcément au terrible tsunami qui a frappé le Tohoku et abouti, entre autres drames, à la catastrophe de Fukushima. Donc Mayu et le monde autour d'elle étaient en position d'infériorité, créature fragile et condamnée, et donc le don de Kedama aux avatars ultérieurs de Mayu consiste en la possibilité de faire un choix, ce qui implique aussi pour lui de demeurer en retrait. Donc certes, il lui faut parfois flanquer une raclée à un monstre, mais au fond la question a été réglée en 1931. Kedama est toujours là, mais quand il apparaît, ce n'est que pour prononcer quelques mots. Il ne force pas, il laisse un choix, au plus fait-il prendre conscience que ce choix existe. C'est assez surprenant et assez bien vu, même si certains à côté de ce discours plaisent un petit peu moins, la mort et le suicide étant de la partie avec ce ton lumineux qui accompagne leur rejet. Ce tome 4 est donc étrange et convaincant, même si ce ressenti n'est probablement pas aussi instinctif et résolu que pour les volumes précédents. Celui-ci, comme le deuxième, paraît un peu plus inégal, avec une baston lourde et bavarde, sans grand intérêt, y compris au plan graphique. Le rapport de Mayu à cet affrontement est plus intéressant, mais il a quand même ses limites. Par contre, la suite des opérations où l'action est bien plus en retrait est satisfaisante et bien pensée, avec une ambiance sobre et sans délire futuriste. 2089 aurait pu très bien être 2019. Le bilan de la série dans son ensemble est donc positif, nous ne parlons pas là d'un chef-d'œuvre impérissable, d'une merveille à lire à tout prix, reste que ce seinen parvient à se démarquer. Tama Yukio, dont c'était la première œuvre traduite en français, y fait preuve d'un talent certain de conteur et convainc dans ce style très dense et saturé de twists qui fonctionnent et ont généralement un sens. C'est un dessinateur doué avec un style sans doute assez académique, mais plus que compétent. Kedamame n'est pas sans défaut et peut laisser perplexe assez régulièrement, mais le voyage n'en reste pas moins plaisant. Aurait-il donc fallu d'autres volumes ? La série se tient très bien en 4 tomes, mais il est vrai qu'on aurait aimé que ce voyage se prolonge un peu plus. Au moins, de cette façon, la série ne sera pas prolongée comme beaucoup d'autres jusqu'à se perdre. Je ne citerai pas, par exemple, Naruto Bleach, entre autres. Voilà. On va pouvoir s'écouter tout de suite une autre chanson. Je rappelle juste que Kedamame... L'homme venu du chaos est à retrouver en 4 tomes aux éditions Glénat. On va s'écouter donc tout de suite une autre chanson. Ai Oboete Imaska, l'édition des cultures de Megumi Nakajima, la doubleuse de Rankali dans l'animé Macross Frontière. Et on viendra juste après pour les sorties manga de la semaine. C'était Megumi Nakajima avec la chanson Ai Oboete Imaska, l'édition des cultures. Megumi Nakajima qui est par ailleurs la doubleuse de Rankali dans l'animé Macross Frontière. On passe maintenant aux sorties manga de la semaine. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Donc lundi 26 octobre, aujourd'hui, on a eu quelques sorties chez Black Box. Enfin, je dis quelques, il y en a eu pas mal. On a eu le volume 1 de Exile Saga, le dragon d'argent. Le volume 1 de Foosebox. Le volume 1 du Banquet des guerriers saga de Midgard. Le volume 1 de Shin Samurai Troopers, le réveil des samouraïs de l'éternel. Le volume 1 de Krimi, merveilleuse Krimi, Long Goodbye. Et le volume 1 de Wataru, sauveur du monde. Pour mercredi 28 octobre chez Soleil, on aura la sortie du volume 5 de Chocolate Vampire et le volume 1 de Vlad Draculea. Voilà, c'est axé sur les vampires. On aura chez Nobinobi, et bien décidément, le volume 1 de Dracula. Voilà, on sent qu'Halloween approche. Aux éditions Kazé, on aura le volume 4 de Junjo Romantica en partenariat avec Asuka, le volume 27 de Moonlight Act et le volume 23 de Rikudo qui sera le dernier tome de la série. Et aux éditions Paquet, on aura la sortie du volume 4 du Roi Singe qui sera également le dernier tome de la série. Les dernières sorties de la semaine, ça sera pour jeudi 29 octobre avec chez Komiku le volume 1 de A Safe New World, le volume 2 de Goodbye My Rose Garden et le volume 9 de L'Enfant et le Maudit. Aux éditions Meiyan, on aura le volume 1 de Brisé par ton amour et les volumes 51, 52, 53 et 54 de Kingdom. Aux éditions Akata, on aura la sortie du volume 1 de Comme sur un nuage. Et enfin, aux éditions Omake Books, on aura la sortie du volume 4 de Girls Last Tour. Voilà. On va pouvoir s'écouter tout de suite une autre chanson. Je crois que je ne dis pas de bêtises si je vous dis de préparer vos oreilles puisqu'il s'agit de Vocaloid. Voilà. Eda Nogonin, interprétée par Meiko. Et on reviendra juste après pour parler culture avec les Hikikomori. De Vocaloid pour bercer vos oreilles. C'était Maiko avec la chanson Eda no Gonin. On passe maintenant à la partie culture. Les Hikikomori ou reclus volontaires en français. Alors au Japon, on estime à près d'un million les adolescents et jeunes adultes qui ont décidé de se murer dans leur chambre. Coupés du monde, ils passent leur journée à lire des mangas et jouer aux jeux vidéo. J'ai envie de vous dire, quel quotidien parfait. 70 à 80% sont des hommes, pour la plupart âgés de 15 à 35 ans. Peur du monde extérieur, pression sociale ou scolaire, refus de la compétition, les raisons sont multiples et le syndrome se propage un peu partout dans le monde, y compris en France. Depuis peu, des coachs proposent diverses méthodes pour aider ces personnes à sortir de leur enfermement et c'est même devenu un business assez fructueux. Alors en France, on compte des dizaines de milliers d'hikikomori. Ce sont majoritairement des jeunes adolescents et adultes qui, pour des raisons multiples, se réfugient dans leur chambre, une cabane, un sous-sol, etc. Reclus depuis 2 ans, Raphaël, 24 ans, a, par exemple, la phobie des autres. Lucas, quant à lui, s'est enfermé pendant 4 ans. Désemparés, ses parents ont fini par l'hospitaliser sous la contrainte. Ils ont trouvé de l'aide dans la personne de Marie-Jeanne Guetsch, une des premières psychiatres à s'intéresser à ce mal qui procède de plusieurs facteurs, troubles du développement, harcèlement, événements familiaux, etc. Elle a vu des cas extrêmes comme ces jeunes faisant leurs besoins dans une bouteille pour ne pas sortir de leur chambre. Donc afin qu'ils gardent un contact avec l'extérieur, elle leur rend visite. Une alliée précieuse pour des parents impuissants qui livrent des témoignages terribles. Face à ce mal qui prend de l'ampleur, des groupes de parole se constituent. Les jeunes, eux, se réfugient sur les réseaux sociaux grâce à AL, 34 ans. Il a créé une page Facebook pour tous les reclus afin que l'image des hikikomori change, car cela n'a rien d'un caprice, explique-t-il. AL vit depuis 14 ans dans une cabane dans le jardin de son père. Donc, je cite, « C'est arrivé en BTS, trop de stress, d'angoisse. Une fois enfermé, c'était la libération, j'étais bien. » Mais petit à petit, j'ai glissé vers la souffrance. Je n'avais plus personne avec qui dialoguer, à part mon ordinateur. Aël avoue avoir subi des abus sexuels à l'âge de 12 ans. Je cite toujours. J'ai essayé d'en parler, mais c'est difficile de se confier. Alors, j'ai créé la page Hikikomori France, afin de permettre aux gens de s'entraider. Voilà, donc Hikikomori France, si vous avez besoin, ou des amis ont besoin, ou des gens que vous connaissez, voilà. Voilà, on va pouvoir partir sur un truc un petit peu plus joyeux. I Call You Love de Meister, et on viendra juste après pour quelque chose de moins joyeux, du coup, la chronique du volume 5 du couvent des damnés.
Follow in all my
Donc c'était Meister avec la chanson I Call You Love, une chanson extraite de l'OST de l'animé Beck. On passe maintenant à la chronique du volume 5 du couvent des damnés. Alors je rappelle que c'est un seinen de genre drame historique qui a été écrit par Takayoshi Minoru, traduit par Johan Leclerc et prépublié dans le Gekkan Spirit. La version japonaise est parue aux éditions Shogakukan avec un total de 6 volumes qui terminent la série. C'est encore une histoire courte. Et la version française est parue aux éditions Glénat avec également 6 tomes. Ce volume 5 est sorti le 17 janvier 2018 au prix des 7,60€. Et je rappelle que la série est pour public averti à cause de la violence. Et de ce qu'il y en a. Le résumé de ce tome, nous sommes au 16e siècle dans le Saint-Empire romain germanique. Laissée seule au monde par les persécutions de l'Église, la jeune Ella est enfermée dans un couvent pour enfants de sorcières. Alors que l'amitié de ses camarades lui avait permis de retrouver une certaine sérénité, elle reçoit un jour « l'honneur » entre guillemets, de devenir l'exécutrice des hautes œuvres du couvent. Et ce n'est que le début d'une nouvelle série d'épreuves pour elle et son petit groupe de résistantes. Ella et sa troupe font donc face à un obstacle imprévu. L'hiver étant rude, il leur sera difficile de survivre avec leurs propres vivres. C'est une question de vie ou de mort, elles doivent surmonter cette dure période hivernale. Mais tandis que le groupe refuse d'abandonner et cherche un moyen pour s'en sortir, Ella est invitée à exécuter les hautes œuvres, je vais y arriver, du couvent du partage des eaux. Alors, bien qu'elles soient de plus en plus nombreuses dans leur troupe, Ella et les siens font face à un obstacle inattendu. Contrer cette difficulté est donc une priorité. Aussi, le début du tome se concentre sur le plan de la bande pour collecter de manière discrète les vivres et les garder en sécurité. Une séquence intense et qui ne traîne pas en longueur, ayant le mérite d'apporter un peu de joie dans la fine équipe, avec ses multiples moments de désespoir. Et c'est ce qui se dégage du tome dans sa majorité. Minoru Takeyoshi rend particulièrement bien la solidarité au sein du groupe de demoiselles, leur individualité étant maintenant mise de côté au profit du travail collectif. Une bande de femmes fortes et déterminées qui vit aussi ses petits moments de joie. Une sensation particulièrement belle qu'on arrive à ressentir dans ce tome qui nous balade de l'espoir au désespoir. Une multitude d'ambiances qui réserve donc de nombreuses surprises, puisque ce tome se montre particulièrement riche en événements. Certains semblent plus anecdotiques que d'autres, par exemple l'épisode où il s'agira de sauver une nouvelle arrivée du couvent condamnée à mort par sa maladresse, tandis que d'autres sont bien plus prometteurs et ouvrent même une hypothétique voie vers la fin de la série. Le dernier tiers de ce tome demandera alors une attention plus soutenue, puisque bien des éléments se mettent en place pour diriger le titre vers sa conclusion. Les manigances d'Eldegarde commencent à être tirées au clair, amenant bon nombre de révélations qui jouent assez bien avec toute l'ambiance spirituelle du titre, tout en cachant des dessins bien plus sombres. En résulte une tension prenante qui aboutit à des moments particulièrement forts dans ce tome. C'est en particulier une Ella plus fragile que nous observons, une Ella qui attire par conséquent toute notre attention et dont le rôle à jouer dans l'ultime volume sera énorme. Difficile alors de sortir indemne de ce volume, qui mène de moments forts en moments forts, mais dresse chez les héroïnes un ultime élan de détermination pour contrer les manigances d'Eldegarde. Pourtant, au terme de la lecture, il est difficile de croire que la série peut se terminer en un seul tome sans être précipitée. Donc certes, nous sommes dans une phase qui semble diriger le couvent des damnés vers son climax, mais sera-t-il possible de conclure le titre comme il se doit en si peu de temps ? Déjouer les plans d'Eldegarde, qu'Ella effectue sa vengeance, que ses comparses parviennent à fuir puis trouver le bonheur ? Tant de questions qu'on se pose, on attend donc cette fin comme on la redoute, mais fort heureusement, sa plus grande épaisseur donnera à Minoru Takeyoshi davantage de temps pour développer cette fin. Donc il dit à la fin qu'il y a 2 chapitres en plus. Donc espérons que ça suffise. Voilà, donc le couvent des damnés à retrouver en 6 tomes aux éditions Glénat. On va s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est Sakura no Mankai no Kinoshita de Merry Go Round, et on verra juste après pour une actualité en Corée du Sud.
の心臓の音が聞こえる君がいなくなったその時から僕の狂い咲いた桜の花びらはバラバラに散らばって君の心臓の音が聞こえる 1987年1月6日の夜にそう君を埋めたんだ 空が泣いて月が死んでる悲しい静かな夜にそう埋めたんだ 僕は怖い夢の途中少しだけ怯えながらそう埋めたんだ僕の一番お気に入りの綺麗な桜の木を下にそう埋めたんだブラウン管の中の正体不明の君は君じゃなくて君のままで螺旋階段を瓶詰める君が僕より先に転げ落ちる悲しい悲しい顔で気が触れそうな僕は神経質で綺麗なものが欲しくてそれを独り占めするんだ君によく似た花を君の身代わりに部屋の壁に貼り付けて君の体君の手足君の吐息君の心臓何度も何度も思い出してむき出しにされたヒステリックな君だけいつも探している桜の下で気が触れそうな君はエビ型で綺麗なものが欲しくてそれを独り占めするんだ桜の木の根っこに君を絡ませて春が来るまで静かに眠ろう君の綺麗な桜は淡い血の色の花びらを咲かせて君の欲しがる新たな首を差し出す僕はからから笑う君の心臓の音が聞こえる中の正体不明の君は君じゃなくて君のままで螺旋階段を瓶詰める君が僕より先に転げ落ちる悲しい悲しい顔で気が触れそうな僕は神経質で綺麗なものが欲しくてそれを独り占めするんだ君によく似た花を君の身代わりに部屋の壁に貼り付けて君の体君の手足君の吐息君の心臓何度も何度も思い出して無理なしにされたヒステリックな君だけいつも探している桜の下で気が触れそうな君はエビ型で綺麗なものが欲しくてそれを独り占めするんだ桜の木の根っこに君を絡ませて春が来るまで静かに眠ろう1997年1月6日の夜にそう君を
effrayant. Alors, c'était Mary Gorand avec la chanson Sakura no Mankai no Kinoshitade. On passe maintenant à l'actualité, le grand drame de l'année. Il s'agit de la pénurie de kimchi en Corée du Sud. Alors, à cette période de l'année, la majorité des familles sud-coréennes achètent choux et autres légumes afin de réaliser leur kimchi. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est du chou assaisonné d'épices et fermenté. Ça arrache la gueule, clairement. Et donc, ils réalisent leur kimchi à la fin de l'année pour le consommer l'année suivante. Mais cette année, la saison des pluies a donc été plus longue que d'habitude. C'était même la plus longue de l'histoire. Et les trois typhons successifs qui ont entraîné des inondations entre août et septembre, donc tout ça a eu finalement raison des choux et de leur récolte. Daesung Corp, le premier producteur de kimchi en Corée du Sud, a déclaré avoir suspendu temporairement les ventes en ligne en raison du manque de choux. CG Cheljedong Corp a déclaré pour sa part, c'est une autre grande entreprise alimentaire, donc qu'elle recherchait des approvisionnements alternatifs pour répondre à une demande particulièrement élevée cette année, car de plus en plus de personnes mangent à la maison en raison de la pandémie de coronavirus. Je cite, « Le chou est assez sensible au changement climatique et les conditions météorologiques extrêmes nuiront à sa production », a déclaré Kim Da-jung, un chercheur à l'Institut économique rural de Corée. Mais le ministère de l'Agriculture coréen espère que la production de kimchi se stabilisera d'ici la fin du mois de novembre grâce à des conditions météorologiques plus favorables. Voilà, donc, histoire à suivre. On va s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est No Way de M-Flo, et on reviendra juste après pour finir l'émission avec une news musicale.
Yeah. The lady is a mania. Says she likes whips and chains and toys for my radius. She like to dress wild, she like to talk dirty. Yeah, she the craziest. Money ain't a thing for her, said it's all extraneous. City that she visit, never sleep. Everywhere she go, they combust spontaneous. Up and down in a 50,000 stadium. Ain't hard to tell, I'm a funky homo sapien. Thought my name was Dell, got 1,000 alias. Call it what you want to, I'm in 1,000 places. Doing 1,001 things, one month of my gradient. Only going up though,
only going upscale.
Ain't turning back, man, tell them burn the stacks, man.
If I'm feeling high, Christ in me lies. Let me see myself, up from the sky. If you see what I see through my eyes.
God. Voilà, donc c'était M-Flo avec la chanson No Way et je suis déjà à la bourre. Alors on va se dépêcher de finir avec cette news musicale. L'agence LMD Entertainment a révélé que le chanteur et producteur sud-coréen Psy participera en tant que parolier à la nouvelle chanson du groupe féminin Momoland qui paraîtra au mois de novembre prochain. Cette chanson a été créée afin de fêter le 4e anniversaire du groupe le 10 novembre et Psy s'est d'ailleurs exprimé à ce sujet. Je cite « Momoland sont des rookies capables de rendre la musique encore plus excitante grâce à leurs expressions bien adaptées. Après avoir écouté la démo, j'ai été ravie de participer à cette chanson. » Un représentant de MLD Entertainment s'est également exprimé dans les médias. Je cite « La participation de Psy à l'écriture des paroles a permis à la nouvelle chanson de Momoland d'être à la fois encore plus unique et complète. Nous nous attendons donc à un nouveau hit mondial dans la lignée de Boom Boom et Bam. » Voilà. C'est très recherché comme titre de chanson. Boom Boom et Bam. Alors, Momoland avait d'ailleurs fait son retour en juin dernier avec l'album spécial Starry Night. Et donc, on s'écoutera cette fameuse chanson Starry Night de Momoland pour finir l'émission. Demain matin, vous retrouverez Philippe pour la matinale de 7h à 10h. Et de 10h à 11h30 pour l'émission Bonjour, ça sera Pascal. Moi, vous pourrez me retrouver vendredi prochain de 18h30 à 19h pour l'émission Cordialement Geek. Sinon, ça sera comme d'habitude lundi prochain de 21h à 22h pour une nouvelle émission Asian Bubble. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine et à bientôt. Starry, starry night.